Dans ce bain de culture, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez Disney pour cette année qui commence. Le maître de la BD japonaise, lui, travaille sur un nouveau film. Ce sera un rendez-vous dans 3 ans. Et puis, il y a aussi le spectacle de danse qu'il fallait voir en 2018. Ça tombe bien, la dernière date, c'est ce mercredi. C'est à Casablanca, au Studio des Arts. Plus de temps, en revanche, devant vous pour aller voir Farid Belkaïa à la Fondation qui porte son nom. Et c'est bien sûr à Casablanca. C'est Bain de Culture, bienvenue. On va s'intéresser dans le bain de culture, je vous le disais dans le sommaire, dans un instant aux sorties véritablement pléthoriques de Disney. Disney en pleine forme pour cette année qui commence. Mais auparavant, eh bien, quelques bougies à souffler. Hayao Miyazaki vient juste de fêter ses 78 ans.
Midi, hein, bain de culture avec Florence Blanc.
Dessinateur, réalisateur, producteur de films d'animation japonais, cofondateur des studios Ghibli, Hayao Miyazaki aime la nature, il aime aussi dessiner le vent. Il deviendra célèbre justement avec une sorte de fable écologique. C'était il y a plus de 30 ans, la sortie de mon voisin Totoro, des arbres qui poussent, comme par magie, une forêt qui renaît grâce à une drôle de grosse bête.
Ouais.
À l'origine de la création de Totoro, il y avait la volonté de ma part de parler de la forêt. Pour moi, la forêt, c'est un véritable être vivant. Mais pour incarner cette forêt, un arbre qui marche, ce n'est pas franchement la meilleure idée. Alors, j'ai cherché à concevoir une sorte d'animal fantastique qui puisse exprimer toutes les valeurs importantes présentes dans les plantes, les arbres, la nature. C'est comme ça qu'est né dans mon imagination le personnage de Totoro.
Un personnage tout rond avec des dents de lapin, mais avec une sorte de tête de gros chat, une grosse peluche en fait, qui va devenir l'emblème des studios Ghibli. C'est le numéro 1 au Japon pour les films d'animation. Écologiste convaincu, Hayao Miyazaki sortira ensuite Princesse Mononoke, qui s'inspire du folklore païen japonais.
On dit qu'au coucher du soleil, il revêt le manteau de la nuit. Il se promène à travers toute la montagne. Il change d'aspect au lever du soleil. Regarde le jour point, il se transforme.
Ensuite, c'est la consécration avec l'un des plus grands succès du cinéma japonais. Le voyage de Chihiro fera le tour du monde. Un voyage qui sort tout simplement de la tête, de l'imaginaire immense de Hayao Miyazaki.
J'ai besoin de voir des paysages. Le problème, c'est que lorsque je commence à travailler, je suis enfermé. Et lorsque je suis enfermé, je n'arrive plus à être créatif. À ce moment-là, pour faire surgir des images, je dois m'en remettre à mon inconscient. Le monde est immense et infini. Moi, je ne montre qu'une partie de ce monde dans mes films. Mais dans ce qui est filmé, ce qui est projeté sur l'écran, il y a différents univers qui coexistent. Le monde n'est pas univoque. C'est ce que j'essaie d'exprimer à travers tous mes films. Je cherche juste à faire des films qui puissent aujourd'hui m'émouvoir comme le cinéma savait le faire lorsque j'étais enfant. J'ai toujours envie de mettre du vent dans mes films. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai ce plaisir à faire souffler du vent dans nombre de séquences de mes films. Par ailleurs, avec ce vent, j'essaie d'exprimer à la fois le mouvement, la durée, le temps qui passe. C'est un plaisir, mais c'est aussi une recherche. C'est un travail que je mène.
L'homme qui dessine le vent, un homme discret dans la carrière, est retracé justement dans un documentaire Never Ending Man, l'homme qui n'arrête jamais. Un documentaire qui est sorti, tiens, au tout début de cette année. En tout cas, le grand maître, on le sait, avait annoncé sa retraite de façon très solennelle. C'était pendant une conférence de presse. Mais voilà, il se passe bien trop de choses dans la tête de Hayao Miyazaki. Il revient, mais oui, sur le devant de la scène dans 3 ans avec un film qui racontera les aventures d'une petite chenille. Patience. You're the one I'm looking for, living for. You're the one I'm thinking of. You're the one that I will love. I wonder if our paths have crossed in this world. I wonder where you are enough. I wonder if you've heard this verse. I wonder what your body looks like. Will you look sublime? Words I can't describe. And I don't know what Cupid is waiting for. I just want him to draw back his bow and fire. Cause I've been waiting for so long to give someone my attention. Yes, I'm looking for someone to love. Love, 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 love. Someone to love. No, 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 no. So where are you? Because I need somebody to love. And let me care for you, oh, oh. Because I need somebody to love. I ain't got a metaphor for this cause. I don't know what's big enough to describe this feeling of questing far and near. But still, you don't appear. So it's like, love, what happened here? Oh, I'm waiting for you there. Oh, no, no. I've been waiting for so long to give someone my attention. Yes, I'm looking for someone to la 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 la. Dans ce bain de culture, après le comeback annoncé de Hayao Miyazaki, le grand maître du dessin animé japonais, qu'est-ce qui nous attend du côté de chez Disney pour 2019, alors que le PDG du groupe a estimé que l'année écoulée, je vais le citer, hein, avait été monumentale avec plus de 7 milliards de dollars de recettes. Christian Schellbourg est professeur de littérature, passionné de mondes imaginaires, entre autres, qu'il décortique, notamment dans son livre « Disney ou l'avenir en couleur », alors entre remake, film, série, comics, cartoons, comédie musicale, 14 titres en tout sur grand écran sont annoncés pour cette année. Qu'est-ce que nous réserve la firme Disney ?
Au beau royaume d'Arendelle, apparut une reine, au pouvoir secret si puissant qu'elle vécut dans la solitude et la peine.
Du calme, garde ton sang-froid.
On est dans le contexte d'une firme évidemment mondiale, hein, qui s'adresse d'une certaine manière au monde entier. Il n'en reste pas moins que les indices d'audience, par exemple, et le premier public, hein, ce qui compte, c'est d'abord l'Amérique. Donc, il faut quand même être très clair là-dessus. On est véritablement sur quelque chose qui est centré sur le public américain. Donc, ce dont nous parle Disney, c'est évidemment de l'avenir de la civilisation occidentale, si on veut, mais c'est d'abord à partir de questions américaines, et d'une certaine manière, à bien des égards, la pluralité de la société américaine va formater en grande partie le discours de la firme sur ce qu'un monde pluripolaire, multipolaire, comme on dit, peut être, peut devenir. Il y a deux choses. Une première dimension qui est une dimension proprement économique, qui consiste à avoir des filiales sur les différents continents qui sont à chaque fois dirigées par des gens du cru. C'est-à-dire que les différentes filiales internationales sont dirigées non pas par des Américains, mais par des gens recrutés sur place. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième dimension qui est qu'il faut évidemment réussir à plaire à tout ce monde. Alors, il faut bien voir quand même ce que la mondialisation au niveau des fictions signifie exactement. On n'est pas, ou pas complètement, dans l'idée qu'un même film va être diffusé sur la planète entière. Ça, c'est vrai pour les très gros blockbusters, évidemment, des choses comme La Reine des Neiges 2, hein, qui nous attend en 2019, ça, de fait, ça va se diffuser pour tout le monde. Mais il y a également des programmes qui sont des programmes Disney, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, il y en a encore plus à la télévision, qui sont des programmes, d'une certaine manière, régionaux, ou en tout cas, des programmes qui sont réservés à l'étranger. Je vais prendre, par exemple, la filiale indienne, fait des films assez régulièrement, qui a bien marché dans la zone Asie et Inde. Vous avez toute une série de productions qui sont comme ça, des productions qui sont destinées à des marchés locaux. C'est un peu moins vrai pour les films en salle, mais ça l'est tout de même. Par contre, c'est beaucoup plus vrai pour la télévision. Par exemple, certaines choses que nos enfants ont pu regarder sur Disney Channel, comme Violetta, a été complètement réservée au public étranger. Violetta est une production de Disney Amérique latine et c'est resté en Amérique latine. Il n'y a pas eu de Violetta aux États-Unis, c'est jamais passé. Donc voilà, il y a ça, c'est-à-dire véritablement une régionalisation de certains produits, d'une certaine manière, qui tient compte du fait que le public international n'est pas un public homogène. On mondialise la marque, mais mondialiser la marque, ça ne veut pas dire mondialiser chacune de ses productions. Les productions sont quand même marquées par les attentes, plutôt ce que la firme a déterminé des attentes d'une région donnée. Par exemple, dans le film indien dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez des mélanges avec de la K-pop, des scènes qui sont très bollywoodiennes. Bon, ça, c'est vraiment pour le public Inde-Asie, moins pour le public américain.
Le cinéma d'animation dans ce bain de culture avec les sorties Disney. Beaucoup de films, de dessins animés, des numéros 2, des genres de suites annoncées comme La Reine des Neiges, il y aura La Belle et la Bête, mais à chaque fois pour la firme, eh bien, surtout c'est d'être à la page dans l'air du temps et garder ce tempo pour les plus jeunes générations. Nous retrouvons Christian Schellbourg.
Il faut savoir qu'une bonne partie des discours que l'on entend à juste titre sur les évolutions, par exemple l'évolution de la figure de la princesse, une bonne partie du discours que l'on a là-dessus, c'est un discours qui provient directement des communiqués de presse de la Walt Disney Company, qui est parfaitement consciente des évolutions qu'elle fait subir à ces personnages et qui communique dessus. Parce que, évidemment, que pour Disney, le plus... ce qu'il ne faut pas, c'est avoir l'air archaïque, il faut toujours être dans le vent. Et on va justement avoir un mélange extrêmement subtil où à la fois on est fier de l'héritage, on va revendiquer l'héritage, mais cet héritage, on va revendiquer sa cohérence, sa dynamique avec les préoccupations d'aujourd'hui.
De votre père.
Ne restez pas dans le noir.
Je vais prendre un exemple caractéristique qui est l'exemple du dernier La Belle et la Bête. Donc La Belle et la Bête, c'est les années 90, je ne me rappelle plus la date exacte, 92 je crois, quelque chose comme ça, ou 91. Le dessin animé a été un succès planétaire et on a refait depuis, il y a 2 ans je crois, on a refait un film en live, donc avec des personnages en chair et en os. Ce film a été marqué à ce moment-là par une polémique, qui est une polémique assez forte même sur le plan international dans certains pays, autour de l'homosexualité du personnage de Le Fou. Le fou donc qui est amoureux de Gaston, le belâtre. Dans la version en live action, son homosexualité est explicite. Elle ne se traduit pas directement par un baiser à Gaston, bien évidemment, mais elle se traduit très clairement par des gestes, par des paroles. Ça, c'est un choix contemporain. C'est un choix qui n'était pas possible au moment où on a fait le premier film, le dessin animé. Mais le fait que ce soit présent dans le deuxième, que ce soit bien explicité dans le deuxième, fait que d'une certaine manière, on va se dire qu'on va relire le dessin animé en se disant qu'au fond, ça y était, mais c'était pas explicite. Évidemment, c'était pas explicite, tout simplement parce que ça n'y était pas réellement.
Regarde-la. Si c'était celle qu'on attendait, celle qui va rompre le sort.
Bonjour.
Vous parlez?
Mais évidemment qu'il parle.
Bonjour. Ravi de vous rencontrer.
Le maître n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît.
Simplement, on va montrer qu'il y a une cohérence entre une œuvre des années 90 et une œuvre contemporaine sur le plan des mœurs, et qu'on était donc déjà ouvert à l'époque, ce qui évidemment est une réécriture de l'histoire. Mais ce n'est pas une réécriture que la Walt Disney Company fait, c'est une cohérence d'écriture qu'elle nous suggère.
Il ne faut pas que tu aies peur.
Je n'ai pas peur.
Voilà donc pour La Belle et la Bête, du côté des films qui s'inspirent de dessins animés qui ont marqué leur époque, mais qui sont repris avec un mix de prises réelles, d'effets spéciaux. Il y aura donc Aladdin, mais aussi un petit éléphant aux grandes oreilles qui est attendu de pied ferme.
Vous possédez quelque chose de très rare, un mélange de merveilleux, de mystère.
Sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin.
Que se passe-t-il? Où l'emmène-t-il?
Conduis Dumbo à l'intérieur.
Mais c'est sa mère! Fais quelque chose! Il a besoin de nous. Regarde-moi, nous ramènerons ta maman à la maison.
Je ne vois rien de magique.
On reprend une fiction qui a marqué son époque. On montre qu'elle est toujours d'actualité. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, on l'adapte à un nouveau média, puisqu'on arrive à faire un éléphant qui vole. C'était impossible sans avoir des trucages qui auraient été assez désagréables à l'œil il y a quelques années. Bon, ça le devient aujourd'hui. Donc là, on est aussi dans une sorte de jubilation du spectaculaire, une jubilation du grand spectacle, et au fond, une jubilation du média cinématographique lui-même.
Montre-leur, Dumbo, tu peux y arriver. Vol, Dumbo. Vol.
J'y insiste parce que souvent, on a tendance à considérer les films à effets spéciaux, que ce genre de film, ça s'adresse à un public naïf qui ne sait pas bien ce que c'est que le cinéma. Bien au contraire, hein, ça s'adresse véritablement à une jeunesse qui sait parfaitement que ce sont des effets spéciaux et hein, qui s'en met plein les yeux parce que ben, le spectacle, c'est fait pour ça.
Un jour viendra. Le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi.
Pas la peine de vous faire un dessin. Vous avez donc reconnu de quoi il s'agit, le Roi Lion. Mais cette fois-ci encore, Disney nous en met plein les yeux. Le long métrage attendu est en prise réelle. Des lions, des singes, des girafes, plus vrai que nature. Retravaillé, Simba de retour. Il faudra patienter jusqu'à l'été prochain avant de le voir courir dans la savane africaine. Mais d'ici là, vous pouvez lire le livre de Christian Schellbourg, Disney ou l'avenir en couleur. En tout cas, cette interview dans Man Culture était menée par Elam Medjahed. On se retrouve dans un instant.
Why, oh why can't I?
De la danse maintenant dans ce bain de culture. Danser Casa, l'aventure se termine après de nombreuses représentations en France, en Europe, au Maroc. La dernière date pour les 8 danseurs et les 2 chorégraphes, Kader Atou et Mourad Marzouki, chorégraphes qui ont tenté un pari, faire connaître par le biais du hip-hop de jeunes Marocains qui viennent par exemple du cirque, de l'acrobatie, pas forcément du tout de la danse, mais qui ont répondu présent pour le plus grand plaisir des 2 chorégraphes français.
Il y a toujours encore des préjugés à abattre, à faire tomber de la part des gens, parce que bien que beaucoup de gens connaissent la scène artistique hip-hop incarnée par des chorégraphes comme Mourad, par moi-même ou par d'autres chorégraphes en France comme Hamid Ben Mahi, Anna Nguyen et j'en cite, il reste aussi beaucoup de personnes qui ne vont pas au théâtre et qui ne vont pas voir ce qu'il y a dans les théâtres. Et donc cette proposition, lorsqu'on parle de hip-hop, on parle de chorégraphie artistique. Il y a une vraie écriture chorégraphique en termes de hip-hop, qui est d'ailleurs une spécificité française. Même en France, on a encore beaucoup de chemin à faire justement sur ces personnes-là qui ont des préjugés, qui pensent que le hip-hop c'est encore une danse de rue, qu'on tourne que sur la tête et qu'on fait que des battles. Donc voilà, il y a tout ce cheminement. Alors évidemment ici au Maroc, c'est encore plus fort ici, quoi, parce que le hip-hop est incarné encore et surtout par les battles.
Il y a une base qui est commune, qui est totalement effectivement universelle. Après, ce qui nous a touché ici au Maroc avec ces danseurs, c'est cette urgence, cette volonté de s'exprimer, cet état dans lequel ils sont, c'est-à-dire, certes on vient pas du conservatoire, certes on a appris la danse dans la rue, mais on a des choses à dire et on veut les montrer, on veut prouver que nous aussi, on peut être applaudi comme n'importe qui. Et ça, ça saute aux yeux et pour nous c'est vibrant, c'est passionnant.
Danser Casa, date ultime au Maroc, c'est ce mercredi, ça se passe au Studio des Arts, Vivant à Casablanca, c'est à 21h.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
But I know now that I'm way down on your line. But
Nous parlions de Danser Casa il y a peu, dernière date, c'est ce mercredi au Studio des Arts Vivants à Casablanca, autre endroit où nous avons envie de pousser la porte, c'est la Fondation Farid Benkaya, un autre maître dans ce bain de culture, un œil sur l'exposition consacrée à celui qui a donné toute son envergure à l'art contemporain au Maroc. Une exposition en effet sur le travail de l'École des Beaux-Arts de Casa alors qu'elle était dirigée par Farid Benkaya. L'aventure commence en 1962 quand il revient d'Europe. Raja Benchemsi est son épouse, elle est commissaire de l'exposition. À l'époque, Farid Benkaya veut débarrasser l'art marocain des scories de la colonisation.
La pensée coloniale soutenait qu'il ne pouvait y avoir d'art au Maroc et dans cette contrée du monde que naïf ou au mieux dans le suivisme de l'Occident. Et donc il a fallu s'atteler pour prouver que le Maroc, qui a une histoire millénaire, avait d'autres choses à apporter et que l'art contemporain appartenait à une ère, non pas géographique, mais que l'art contemporain est une étape de l'évolution de l'humanité et que donc toutes les régions du monde peuvent faire de l'art contemporain en apportant leurs spécificités. Et c'est à cela qu'ils se sont attelés en introduisant les arts traditionnels, en les enseignant dans cette école et en éradiquant l'idée de l'art brut, de l'art primitif, de l'art naïf, etc., que soutenait donc la pensée coloniale.
À cette époque, Farid Benkaya abandonne aussi les chevalets, la peinture, va-t-on dire d'une certaine façon traditionnelle. Il va s'attaquer à une matière, un matériau qui va devenir ensuite sa signature. Il s'attaque au cuivre.
Le passage au cuivre chez Farid Benkaya est réellement un acte révolutionnaire parce que c'était justement pour dire à l'Occident, non pas parce qu'il était contre l'Occident, il a continué à avoir d'excellents rapports avec les Occidentaux par rapport à la pensée coloniale. C'était justement pour dire que on peut ne plus avoir les mêmes référents, donc le chevalet, la peinture à l'huile, etc., donc certaines formes, et travailler à partir de matériaux traditionnels, fortement utilisés dans la tradition, notamment au Maroc, mais pas seulement bien évidemment, mais qu'on peut faire de l'art contemporain en ayant un tout autre référent. Et c'est cela, la première idée qui va animer le passage au cuivre.
Le cuivre qu'il faudra dompter, apprivoiser. Raja Benchemsi est la commissaire de cette exposition consacrée à Farid Benkaya. Elle répond à Mounia Belharbi.
Farid Benkaya, donc, qui était dans une période expressionniste, donc autant à Paris qu'à Prague, va avoir une transition, c'est-à-dire qu'il va faire certaines œuvres expressionnistes sur cuivre avant de petit à petit évoluer vers des bas-reliefs totalement abstraits dans le cuivre.
Oui.
Mais il y a une transition et que l'on met en scène dans cette exposition.
Dans cette exposition où il s'agit en fait de démontrer quel a été l'impact de cette fameuse école des Beaux-Arts de Casablanca sur l'ensemble de la création artistique du siècle ensuite, vous avez aussi choisi de montrer le travail d'autres artistes et vous avez en quelque sorte classé en deux catégories, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y a les enseignants, il y a absolument des œuvres de tous les professeurs et il y a aussi des œuvres de tous les étudiants
oui.
qui étaient là et qui ont fait carrière. Ils sont tous dans une même salle
oui.
et on arrive réellement à détecter la parenté à la fois entre tous ces professeurs au niveau des formes, de certaines couleurs, mais aussi par rapport donc aux étudiants. Petit à petit, il s'est créé quelque chose qui s'est appelé l'école de Casablanca.
Culture avec Florence Blanc.
dans ce bain de culture. Un œil sur l'exposition consacrée à celui qui a donné toute son envergure à l'art contemporain au Maroc. Une exposition, en effet, sur le travail de l'école des Beaux-Arts de Casa, alors qu'elle était dirigée par Farid Belkaïa. L'aventure commence en 1962, quand il revient d'Europe. Farid Belkaïa, qui pourrait aussi avoir un long métrage qui lui est consacré, le réalisateur Faouzi Ben Saïdi y travaille.
Tout un chacun, tout un Marocain a droit à la beauté et a droit à l'abstraction aussi. Il n'y a pas de raison que les gens le plus simple ne soient pas touchés, émus par un art qu'on aimerait dire élitiste, mais qui ne l'est pas. Parce qu'il y a une émotion, parce qu'il y a une beauté qui se dégage. Donc c'est une question éternelle, c'est une question qui est posée à nous aussi. Par exemple dans le cinéma, où les gens disent « oui, mais il faut, il y a des films pour le public, il y a des films, comme ils disent, pour les festivals ». Ce n'est pas vrai. Un film est un film. Un film est fait avec le cœur d'abord, est fait avec les tripes, est fait avec l'émotion. Voilà, je me répète, mais c'est vrai que ce droit à la beauté est important et du coup, c'est vrai, que ce soit le travail de Farid Belkaïa et cette exposition, c'est un travail qui, moi, m'interpelle. Et donc, du coup, c'est un travail avec lequel j'ai envie de dialoguer, même aujourd'hui. Alors, il y a une discussion avec Raja et avec la Fondation pour un film sur Farid Belkaïa. Pas seulement un documentaire, on raconterait la vie de Farid Belkaïa, mais comment porter un regard sur l'œuvre de Farid, une espèce de biographie visuelle en fait de Farid Belkaïa, d'évoquer ses œuvres et d'évoquer leur importance, mais dans un film qui existe pour le travail de Farid, par le travail de Farid, mais que le cinéma et la peinture dialoguent quelque part et on sait aussi le rapport qu'avait Farid Belkaïa avec le cinéma.
Voilà, peut-être un film donc sur le grand maître de l'art contemporain au Maroc, Farid Belkaïa, et cette exposition jusqu'en mars prochain qui se tient donc à la fondation du même nom. Le cinéma, on va y rester, c'est la nuit des insomniaques hein, pour nous, décalage horaire oblige. Direction Hollywood, la nuit des Golden Globes nous attend, petit aperçu avec Soukaina Aziz.
Bain de culture, cinéma.
Avec 6 nominations, dont celle de la meilleure comédie, Vice est le favori. Un portrait satirique de l'ancien vice-président américain Dick Cheney, interprété par un Christian Bale méconnaissable. Il pourrait repartir avec le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Dans la catégorie meilleur film dramatique, A Star is Born crée la surprise. Saluée par la critique, cette histoire d'amour sur fond de country est portée par le duo Bradley Cooper et Lady Gaga, la chanteuse par favorite pour la meilleure actrice dramatique. On connaîtra aussi le successeur à Handmaid's Tale dans la catégorie meilleure série dramatique. Les séries d'espionnage sont présentes en force avec The Americans et Killing Eve, mais c'est Bodyguard, succès de la BBC, qui pourrait faire la différence. La série The Assassination of Gianni Versace, créée par Ryan Murphy, sort son épingle du jeu avec 4 nominations. 3 pour l'excellente Sharp Objects sur HBO, réalisée par Jean-Marc Vallée, aux prises avec The Good Place ou encore Barry, de Marvelous Mrs. Maisel, pourrait décrocher pour la 2e année consécutive le Golden Globe de la meilleure série comique.
Un excellent moment avec nous sur Média, un bain de culture. La semaine prochaine, c'est David Labo qui sera avec vous et qui reprend le flambeau. Bon week-end.
Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. You think of me stuck in my chair that has 4 wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. Remember me.